Voici une question dont la réponse va sûrement en surprendre plusieurs. Qu'est-ce que les miracles de Jésus ont réellement prouvé? Demeurez à l'écoute, la parole de Dieu va nous donner une réponse bien claire aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Je veux remercier le Seigneur de tout mon cœur pour le bon enseignement qu'il nous donne régulièrement à l'émission À travers la Bible. Quel privilège on a de vivre dans un pays où on a la liberté d'entendre prêcher la parole de Dieu. Dans sa fidélité, dans son amour, le Seigneur va répondre de nouveau aujourd'hui à quelques questions qui sont peut-être les vôtres. Les voici. Est-il possible d'avoir une foi qui étonne le Seigneur Jésus? Est-il possible de l'étonner par notre incrédulité? Est-ce que Jésus a toujours utilisé la même méthode pour ressusciter les morts? Que faut-il faire pour devenir chrétien? Les miracles de Jésus ont-ils servi à prouver quelque chose d'important? Est-ce que nos doutes sont un signe d'intelligence? J'ai bien hâte d'entendre ce que le Seigneur va nous enseigner aujourd'hui par la bouche du pasteur Régent Joly. Préparons-nous à recevoir la parole de Dieu. Prions. Ô mon Dieu, on a tellement besoin de ta parole. Dans ce monde où tout va trop vite, on a besoin que tu nous apportes ta paix par tes saintes écritures. Enseigne-nous aujourd'hui. Donne-nous de la sagesse à travers ton enseignement. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Ce septième chapitre de l'Évangile selon Luc débute avec une guérison miraculeuse, celle du serviteur d'un centurion romain. Même si Jésus n'a pas touché ou rencontré personnellement cet homme, il fut guéri. Seul Luc raconte la résurrection du fils de la veuve de Naïn. Il est le seul évangéliste à rapporter la résurrection de deux morts. L'autre cas est celui de la fille de Jaïrus. Dans ce chapitre, nous voyons aussi la première de 18 paraboles qui sont racontées seulement par Luc. Jésus la donna l'occasion d'une visite chez Simon, un pharisien, où une femme est venue oindre ses pieds. La parabole des deux débiteurs révèle que cette femme de la rue était en meilleure santé spirituelle que les pharisiens. Chers amis, débutons notre lecture de l'Évangile selon Luc, chapitre 7, les versets 1 à 10. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car, moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Je serai bref dans mes commentaires sur ce premier miracle, car nous l'avons étudié en détail dans l'évangile de Matthieu. Rome occupait la Palestine, et il y avait de nombreux soldats dans les villes, dont Capernaum. Un centurion ou un centenier était responsable d'une centaine de soldats. Ce commandant était un homme de foi qui aimait la nation juive. Il a bâti une synagogue à Capernaum. Puisque le soldat occupait un poste d'autorité, il n'avait qu'à dire à ses hommes « Fais ceci, fais cela ». Les soldats lui obéissaient. Le centenier avait perçu la puissance et l'autorité de Jésus. Donc, il a demandé à Jésus de simplement prononcer une parole pour que son serviteur soit guéri. Jésus fut étonné de la foi de cet homme. La seule autre fois que la Bible rapporte que Jésus fut étonné, c'est devant l'incrédulité d'Israël. Versets 11 à 18. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète a paru parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Seul Luc rapporte cette résurrection. Les résurrections faites par Jésus diffèrent de la sienne. Le Seigneur a remis la vie dans des corps de chair. Les personnes ressuscitées par Jésus ont dû mourir une deuxième fois. Ce jeune homme, la fille de Jaïrus et Lazare sont tous morts une deuxième fois. Par contre, Christ est ressuscité avec un corps glorifié, et il est les prémices de ceux qui ressusciteront. Lorsque Christ reviendra, ceux qui sont morts en lui ressusciteront avec des corps glorifiés pour le suivre au ciel. Ce corps glorifié ne mourra jamais. L'histoire du fils de la veuve de Naïn est touchante. Puisque le jeune homme était fils unique, sa mort était encore plus tragique. En arrivant à Naïn, Jésus a rencontré la procession funéraire. Certains pensent que Jésus a interrompu toutes les funérailles qu'il a vues. J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, compte parmi ceux qui croient que Jésus a ressuscité plus de personnes que rapportées dans la Bible. Nous avons le cas d'un enfant, d'un jeune homme et d'un adulte. Jésus a éprouvé de la compassion pour la veuve et il a ressuscité son fils. Il a parlé au jeune homme qui est ressuscité. Jésus s'est toujours pris de la même façon pour ressusciter les morts. Il adressait la parole aux morts. Il en sera ainsi à l'enlèvement de l'Église. La Bible nous dit, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 17. Kéléma, le mot grec traduit par « signal donné », signifie en fait un cri pour inciter les gens à faire quelque chose. Sa voix sera comme celle d'un archange et une trompette de Dieu. Sa voix appellera les siens d'entre les morts. Jésus-Christ s'est toujours pris de la même façon pour ressusciter un mort. Il a utilisé différentes méthodes pour faire des guérisons, mais toujours la même, pour les résurrections. C'est à ce point-ci que Jean-Baptiste envoie ses disciples vers Jésus pour le questionner. Le pauvre homme, il est perplexe. Versets 19 et 20. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés auprès de Jésus, ils dirent, « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Nous avons rencontré Jean-Baptiste dans les évangiles de Matthieu et de Marc. Il s'habillait de façon originale, mais ce ne sont pas les vêtements inhabituels de Jean-Baptiste qu'il rendait original. C'était son message et son ministère qui le distinguaient des autres. C'est Dieu qui l'avait appelé. Et si nous sommes pour occuper un poste d'enseignant, assurons-nous bien que l'appel vienne de Dieu. Un jour, une femme était devant le studio d'enregistrement des émissions de J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, où elle faisait un sondage auprès des passants. Elle lui demanda quelle était son occupation. McGee lui répondit, tout en lui demandant ce qu'une personne devait faire pour devenir chrétienne. Cette dame répondit, « Être bon avec les autres, ne pas médire les gens, être amical plutôt que rude. » Elle donna une liste assez longue de choses à faire pour devenir chrétien. McGee lui dit, « Tu penses que le christianisme consiste de choses que tu dois faire. Être chrétien, c'est connaître Christ seulement, le connaître intimement. Si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire qui a placé sa foi en Christ, il est une nouvelle créature. » 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. On devient chrétien uniquement par la foi en Christ. Jean-Baptiste ne semble pas sa place dans le Nouveau Testament. Il est le dernier des grands prophètes de l'Ancien Testament. Il se classe parmi les Samuel, les Élie, les Ésaïe et les Jérémie. Christ a dit aux gens auxquels il a prêché, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, « Si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. » Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Matthieu, chapitre 23, versets 29 à 31. Les pharisiens se sont montrés dignes de leur père, car ils ont emprisonné le dernier prophète de l'Ancien Testament, et bientôt il sera exécuté. Dans la prison, Jean a eu des doutes. Certains cherchent des explications psychologiques pour la question qu'il a fait poser à Jésus. Certains suggèrent qu'il était déprimé ou découragé. Je ne pense pas que ce fût le cas. Jean avait annoncé la venue du royaume de Dieu et par le fait même dénoncé le péché d'incrédulité de la nation. Il était celui qui a aplani les sentiers pour la venue de Christ, le roi annoncé. Jean et celui qui avait identifié le Messie. Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Luc, chapitre 3, versets 16 et 17. Ce sont des paroles puissantes, et Jean ne s'attendait pas à une fête champêtre. Jean s'attendait à ce que Christ établisse son royaume avec gloire et puissance. Cela ne se produisait pas, et c'est pour cela que Jean a envoyé des messagers demander au Seigneur Jésus s'il était celui qui devait venir, ou s'il fallait en attendre un autre. Jésus a accueilli les disciples de Jean amicalement, mais il les a fait attendre avant de leur répondre. Poursuivons notre lecture. versets 21 à 23. À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Jésus a fait une démonstration de sa puissance aux disciples et il les renvoie dire à Jean ce qu'ils ont vu. Il cite une prophétie d'Ésaïe. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Ésaïe, chapitre 35, versets 5 et 6. Donc, Jésus a donné aux disciples la preuve qu'il était le Messie. Jean avait accompli sa mission. Jésus perçut que Jean pensait qu'il n'agissait pas assez rapidement. Donc, devant cette difficulté, il l'encourage à lui faire confiance. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. L'Épître aux Hébreux, chapitre 2, versets 3 et 4. Oui, cher ami, la Bible est claire, les miracles ont servi à prouver la véracité des messages de Dieu. Partout dans l'histoire du peuple de Dieu, celui-ci est intervenu miraculeusement pour secourir son peuple. Cependant, Dieu a donné à des hommes le pouvoir de faire des miracles seulement lorsqu'ils transmettaient une nouvelle révélation. Moïse a fait des miracles lorsqu'il a fait sortir les Hébreux d'Égypte, confirmant que la chose venait de Dieu. Élie et Élisée ont fait des miracles, confirmant l'origine divine du mouvement prophétique. Jésus-Christ et les apôtres ont fait des miracles confirmant l'origine divine de la nouvelle alliance. Mais, entre ces époques de nouvelles révélations, Dieu fait personnellement des miracles. Il combat pour son peuple, mais il ne s'est pas servi d'instrument humain. Il y a une grande différence entre ce que font aujourd'hui ceux qui affirment avoir le don de guérir et les miracles faits par Jésus. Les scribes et les pharisiens ne pouvaient pas nier la guérison des aveugles de naissance, ainsi que des boiteux de naissance. Tous les connaissaient. Aujourd'hui, nous ne voyons pas vraiment de miracles véritables et vérifiables. Des boiteux qui s'avancent pour être guéris repartent en boitant. Jésus nous demande aussi de lui faire confiance. Il nous demande de marcher par la foi lorsque nous ne comprenons pas. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Les doutes ne sont pas un signe d'intelligence. Vos doutes exposent votre folie et montrent que vous ne savez pas tout. Ils indiquent que vous faites partie d'un groupe qui périt. Bien des professeurs sont assis dans leur fauteuil parmi une grande quantité de bouquins, loin du quotidien et des souffrances des gens, et ils écrivent des articles savants expliquant pourquoi il est difficile intellectuellement d'accepter les énoncés de la Bible, la divinité de Jésus-Christ et la rédemption par son sang. Mes amis, je crois la parole de Dieu. Et j'espère qu'il en est ainsi de vous. Versets 24 à 27. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Cette citation provient du prophète Malachie, chapitre 3, verset 1. Christ confirme que Jean-Baptiste était le précurseur annoncé. Il n'était pas un roseau agité par le vent, mais un homme qui marchait selon la puissance de l'Esprit. Versets 28 et 29. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Jésus a fait un très grand éloge du ministère de Jean-Baptiste. Poursuivons, versets 30 à 32. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. À quoi donc comparais-je les hommes de cette génération et à qui ressemblent-ils? Ils ressemblent aux enfants assis dans la place publique et qui, se parlant les uns aux autres, disent « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. » Jésus compare les pharisiens à des enfants gâtés. Bien des personnes agissent ainsi. J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, affirme qu'il a passé bien du temps avec des bébés spirituels à jouer la nourrice et à faire des hoquets lorsqu'il était dans le ministère. C'est ce qu'étaient l'élite religieuse de l'époque de Jésus. Il l'illustre avec des enfants qui jouent. Jouons au mariage? Non, c'est trop joyeux. Jouons aux funérailles alors? Non, c'est trop triste. Je crains que cette image décrive assez bien certaines églises contemporaines. Versets 33 à 35. Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Chers amis, nous entendons souvent les gens critiquer les prédicateurs. « Ah, je n'aime pas un tel, car il est trop intellectuel. Et cet autre parle sur un ton monotone. » Les mêmes personnes vont dire d'un autre, « Je n'aime pas un tel, parce qu'il frappe sur son lutrin, il crie trop fort, et même il postillonne sur les siens. » Le problème n'est pas avec le style du prédicateur. Le problème est avec les enfants gâtés, qui ne sont jamais satisfaits. Voilà, chers amis, ce que le Seigneur a voulu souligner. Et cela s'applique encore aujourd'hui. Cessons de nous plaindre. Acceptons ce que le Seigneur a à nous dire par la bouche de ses serviteurs. Nous sommes tous des êtres imparfaits et faibles, et nous avons tous besoin d'être encouragés. Prions les uns pour les autres. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Luc, chapitre 7, verset 36, jusqu'à la fin du chapitre 8.
Merci, Régent. On a vu bien clairement aujourd'hui que nos doutes ne sont pas un signe d'intelligence. Le Seigneur veut qu'on lui fasse confiance, même quand on ne comprend pas le but ou le pourquoi de l'épreuve que nous traversons. Mon ami, j'espère de tout mon cœur que tu es parmi ceux qui ont fait confiance au Seigneur Jésus pour être sauvés, pour recevoir le don gratuit de la vie éternelle. Si un jour tu t'es repenti, si tu t'es détourné du péché pour emprunter la voie de l'éternité en acceptant Jésus comme ton sauveur, tu es devenu un enfant de Dieu par la foi en Jésus seul. Tu peux aussi faire confiance à Dieu dans tout ce que tu traverses, dans tes décisions, dans tes épreuves, dans tes choix de carrière, dans tout. Je me rappelle, peut-être 2 ou 3 ans après avoir reçu le Seigneur Jésus dans ma vie, j'avais quitté le domaine artistique parce qu'à cette époque-là, dans ce domaine, la majeure partie du salaire des chanteurs populaires se gagnait à faire des spectacles dans les cabarets où les gens consommaient beaucoup d'alcool et où il régnait une ambiance qui n'allait plus du tout avec mon nouveau désir de vivre dans la paix, dans la joie du Seigneur. Aussi, j'avais décidé que désormais, j'utiliserais mes dons pour la gloire de Dieu et non pour la mienne. Mais avant de trouver un nouveau moyen de gagner ma vie, j'ai vécu une période où l'argent se faisait de plus en plus rare pour moi. Je recevais quelques royautés de la Société des compositeurs et quelques redevances pour des commerciaux qui continuaient à être utilisés à la radio, à la télé. Mais ce n'était pas suffisant pour gagner ma vie. Je pourrais dire que le Seigneur s'est servi de cette épreuve pour faire grandir ma foi. Au début, je priais, je demandais à Dieu de me donner du travail, de pourvoir mes besoins, mais je m'inquiétais aussi. Et je m'apercevais donc que je doutais que Dieu allait pourvoir. J'ai donc commencé à demander à Dieu d'augmenter ma foi. Je confessais mon incrédulité. Je jeûnais, je priais. Jusqu'à un certain jour où je me suis levé et où j'ai simplement cru que Dieu allait pourvoir. Je n'avais rien devant moi, mais j'étais certaine que le Seigneur Jésus allait faire quelque chose. Quelle paix, quelle joie. Et pas longtemps après, Dieu m'a donné un travail que j'aimais faire, et tout ce dont j'avais besoin. Il a toujours pourvu à mes besoins jusqu'à ce jour. Mon ami, as-tu des doutes quand tu pries le Seigneur? Confesse-le à Dieu. Il est fidèle et juste pour te pardonner, comme il le fait pour moi. Fais confiance à Dieu. Il est ton Créateur, ton Sauveur. Il est tout-puissant. Rien n'est impossible à celui qui croit. Jésus a dit « Demandez et vous recevrez ». Mais il faut demander sans douter. Attends-toi de voir la main de Dieu s'ouvrir pour toi. Dieu veut te bénir. Dieu va te bénir. Dans sa première épître au chapitre 1, verset 6, Jacques nous dit qu'il faut demander avec foi, sans douter. Alors, il va pourvoir à tous tes besoins, parce que le Seigneur t'aime, puis doute pas. Dieu veut te bénir.
Régent, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer?
Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors, les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement.
Wow!
Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie?
Eh oui! Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec.
Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous?
Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, G1G-6P2. Chers amis, au revoir.
Et à demain.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.